cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 17 avril 1986.
Plusieurs questions. Nous sommes toujours au niveau de la famille. Quel est le fondement de la paternité d'une part, de la maternité d'autre part? Quel est leur caractère propre à chacun? Le fondement de la paternité, c'est d'être père. C'est-à-dire d'être source de vie pour l'enfant. C'est ça le fondement. C'est donc l'action propre de la procréation. Le fondement. Toute relation a un fondement. La paternité est une relation. Et la maternité est une relation. Et c'est une relation de part et d'autre dans cette action commune qui est la procréation, d'où le fruit et l'enfant. Alors ça, c'est le fondement normal. Il peut y avoir des adoptions. Alors comprenons bien que la paternité humaine implique de porter la responsabilité de la procréation, donc de la fécondité, de la procréation et la responsabilité de l'éducation. Puisqu'au fond, le point de vue de la procréation se termine à l'enfant éduqué, c'est-à-dire capable de prendre des responsabilités et de fonder un autre foyer, ou capable de prendre des responsabilités et de s'orienter dans la vie vers une vie consacrée à Dieu. La paternité s'arrête devant l'orientation de vie et de la finalité de celui qui est engendré. Donc le père et la mère n'ont pas de droit sur la vocation de l'enfant. Ils n'ont de droit que pour permettre à l'enfant d'être un homme. L'acquisition de la personnalité. Mais quand il s'agit de choisir l'orientation de sa vie, quand il s'agit de choisir sa finalité propre, l'amitié, là c'est un très gros problème. Quand il s'agit d'amitié, est-ce que l'enfant a le droit de choisir toutes les amitiés? Alors tout dépend. Comme souvent, il n'est pas capable, les parents doivent orienter les amitiés. Et ça c'est très important. Je crois que dans l'éducation aujourd'hui, c'est capital de prévoir le dépassement de la famille par les amitiés. Et donc de permettre des amitiés qui soient bonnes, en sens qu'elles permettent le développement de la personne humaine. Et non pas des amitiés qui seraient passionnelles et quelquefois mauvaises. Ça fait partie, vous voyez, de ce que représente la paternité. La paternité repose bien sur la procréation, mais la paternité peut reposer aussi sur une responsabilité d'éduquer quelqu'un qu'on adopte. La paternité de Saint-Joseph est une paternité qui est la plus grande des paternités. Et c'est une paternité qui est la responsabilité de l'éducation. Alors vous allez me dire qu'il n'y avait pas d'éducation pour l'enfant Jésus. C'est vrai. Il n'avait pas besoin d'être éduqué. Et donc c'est une paternité qui repose sur la responsabilité du développement biologique, humain de l'enfant Jésus. Mais l'enfant Jésus, au sens strict, n'a pas été éduqué. Il avait toutes les vertus infuses au point de départ. Or, l'éducation, c'est permettre à l'enfant de devenir vertueux. Si l'enfant, au bout de l'éducation, n'est pas vertueux, l'éducation a complètement raté. Si on en fait un petit brigand, si on en fait un orgueilleux fini, un vaniteux, l'éducation a raté. L'éducation se juge à l'acquisition des vertus. C'est pour ça qu'il y a si peu d'éducation aujourd'hui. L'acquisition des vertus. Et l'acquisition. ou le Vitus Star. Ça fait partie directement, ça, de la formation. Acquérir des habitus qui soient des habitus humains. Alors, pas des habitus humains. L'art est un habitus humain. Il y a les vertus. Alors, il y a des disciplines. L'histoire, c'est une discipline. Ça ne vous donne pas un habitus. Alors, savoir si l'acquisition des langues, la littérature, est-ce que c'est un habitus ? C'est toujours très intéressant pour une éducation, c'est une grande question, ça. On y reviendra tout à l'heure. Donc, vous voyez, pour la paternité, il faut bien voir que c'est la procréation qui implique la responsabilité. Ça sent très bien dans une famille quand tous les enfants sont casés. oiseaux sont partis du nid parce qu'ils ont eu des ailes suffisamment grandes. Est-ce que le foyer demeure ou ne demeure plus? Le foyer demeure, la famille demeure, parce que c'est le lien de l'époux et de l'épouse dans la lutte, parce que c'est bien évident que ça se fait pas facilement, mais dans une lutte qui est vraie. Plus en plus, il y ait un lien d'amour entre l'époux et l'épouse. Les enfants et la procréation, la fécondité, est seconde comme fruit de cet amour. L'éducation des enfants suit la procréation normalement, ou suit la responsabilité commune d'adopter des enfants. Mais c'est pas premier. C'est pas premier. Ne se réduit-il pas au bien de l'enfant? Non. C'est pas suffisant. Le bien de l'enfant est essentiel. Hein. Comprenez bien, quand je dis second, c'est pas accidentel. Hein. C'est une propriété, une conséquence. C'est essentiel, le bien de l'enfant. Mais ce n'est pas premier dans le sens du catoto, du percé, la percéité. Le lien premier, c'est l'amour d'amitié entre les couples. Très étonnant, ça. Alors, une question très délicate et importante. Quelle est la place de l'immigré en philosophie politique? Sur quoi se fonde la nation? Alors, cette question, ici un peu plus développée, que je prends tout de suite. Reprenant en l'étendant l'analyse d'Aristote sur les rapports de l'esclave et du maître au sein de la communauté familiale, peut-on considérer ainsi la situation de l'immigré au sein de la communauté nationale? L'immigré est-il à la communauté nationale ce que l'esclave est à la communauté domestique? Petit analogie, mais qui n'est pas si bête. Si oui, la participation de l'émigré à la vie du pays, droit de vote par exemple, n'implique-t-elle pas d'abord une reconnaissance par lui de la civilisation et de la culture dont il est l'hôte? Ceci par prudence politique et pour le bien de toute la communauté nationale. Sur un plan chrétien, famille chrétienne, un pays dit chrétien aurait-il le droit de prendre le risque d'être islamisé? Ce qui, à terme, ne manquerait pas d'être le cas vu le poids démographique de la population immigrée en France, dans un système politique, démocratique, où l'aspect quantitatif de la voix électorale domine. Ah, vous voyez tout de suite que nous ne sommes plus directement au niveau de la famille. Mais on peut traiter cette question-là tout de suite, parce qu'il y a l'analogie avec l'esclave. Et c'est vrai, il y a une analogie avec l'esclave. Rappelons-nous que pour Aristote, il y a deux espèces d'esclaves. Il y a l'esclave légitime dans sa perspective et l'esclave par violence, qui est illégitime, qui est injuste. Quand un pays plus puissant qu'un autre, par les armes, envahit ce pays, c'est injuste pour Aristote. C'est injuste. Donc, le cas, si vous voulez, qu'on a vu sitôt la guerre, de la mainmise de certains pays par la puissance, du cas de la Pologne, c'est injuste. On est soumis à une puissance unique. un devoir de s'opposer au régime de la manière la plus astucieuse qui soit. C'est très important. Parce que dominer un pays uniquement par la puissance des armes demeure quelque chose d'injuste. Libérer un pays d'un tyran, c'est autre chose. C'est le cas de la dernière guerre, si vous voulez. Vous étiez en face d'un tyran et puis il y a eu un autre tyran. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses comme ça. On a été libéré du nazisme et les soviets sont emportés, l'ont emporté. Parce que on n'a pas vu assez le point de vue de la justice et du bien des peuples qu'on libérait. Alors je ne dis pas sur qui tombe la faute, mais on voit très bien. Parce que de fait, on n'a pas le droit, vous voyez, d'enlever un tyran pour laisser un autre tyran. C'est très important ces choses-là, nous devons garder un œil très très net. Si du jour au lendemain, on est sous l'emprise des soviets, nous serons comme des esclaves. Cet esclave-là, est-il légitime? Et donc le devoir est de s'opposer pour empêcher l'esclavage. Alors, comprenons bien cette distinction que fait Aristote entre l'esclave naturel pour lui. Ça, c'est une question très grave à discuter, mais je prends la distinction d'Aristote. L'esclave naturel, pour Aristote, c'était le bien de l'esclave, d'être intégré dans la famille. On dirait aujourd'hui des domestiques qui vivent de la famille. Ou domestiques, ou des serviteurs, qui vivent dans la famille, qui sont intégrés dans la famille. L'esclave était intégré dans la famille. Et le bien de l'esclave et le bien du maître étaient le même. Le serviteur arrivait à avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir avoir sa liberté, il fallait le libérer. Donc c'était, si vous voulez, un état particulier qui est très difficile pour nous de penser parce que nous sommes sous un point de vue tellement différent. Alors pour nous, dès qu'on voit esclave, il y a tout de suite la passion. Tu comprends du reste. Il y a une réaction passionnelle, comme libération. Oui. Il y a des réactions affectives, qui fait qu'on ne voit plus suffisamment le cas qu'expose Aristote. Toulos, serviteur, celui qui obéit à l'autre, celui qui est soumis à l'autre. Ben, c'est pas infamant quand entre le maître et le serviteur, il y a le même bien, la recherche du même bien. C'est comme entre un maître et un disciple. C'est pas infamant d'être disciple, au contraire. C'est mieux d'être disciple que de ne pas l'être, parce qu'on progresse plus vite. Mais le maître ne doit pas tyranniser. On cherche le même bien, la vérité. Et si le disciple la découvre plus vite que le maître en est très heureux. Ça, le propre de la relation maître-disciple-patron-ouvrier, maître-serviteur. Oui, donc, il faut bien comprendre que le serviteur n'est vraiment serviteur que lorsqu'entre le maître et le serviteur, dans leur coopération, c'est le même bien commun qu'on recherche. Entre maître et disciple, la relation est vraie quand c'est le même bien commun. les exploiter pour leur faire écrire ce qu'il n'a pas le temps d'écrire. Et il signe. Ça arrive. Vous savez bien. 68 a existé à cause de ça. C'est que des grands pontes, ça existe surtout du côté médecine, des grands pontes, parce que c'est plus facile du côté médecine, ça peut exister aussi dans d'autres disciplines, font, se servent de leurs disciples pour faire des recherches que n'ont pas le temps de faire. Et quand le disciple découvre quelque chose, il lui fait écrire. Mais le disciple n'a pas le droit de signer. Et c'est lui qui signe. Vous voyez, on est reçu. Là, c'est très nettement. On se sert du disciple comme d'un esclave. Donc il y a quelque chose qui m'a plu. Parce que la coopération ne se fait plus. Alors, l'émigré. Quand il est dans un pays, alors là il faudrait regarder tous les grades d'émigrés. Vous voyez, quand on va au Texas et qu'on voit les émigrés mexicains, 1,5 million d'émigrés qui passent la frontière illégitimement, qui sont vraiment donc dans un cas illégitime, savoir si l'Amérique. Si les États-Unis font bien leur métier ou pas, c'est un fait. Ils passent la frontière de façon illégitime. Parce que pour eux, gagner le gain d'un mois de travail au Texas représente un an de travail au Mexique. Alors évidemment, ça vaut la peine. En un mois, vous gagnez un an. Alors ils travaillent un mois, puis repartent. Et s'ils se font prendre, on les refoule. Sans aucune punition, on les refoule. On sait très bien que le lendemain, ils y seront repassés autre part. Tout le monde le sait. C'est une connivence que tout le monde connaît. Donc c'est assez doux. On les refoule quand même, par principe. Pour que la loi soit appliquée. Mais on sait très bien que il repassera par un autre trou. Alors, l'émigré qui a une carte d'identité, qui a passé la frontière avec un passeport et qu'on a accepté, ou bien l'émigré qui n'a pas de carte d'identité, qui est là, illégitimement. Oui, c'est deux situations très différentes. Je crois que là, il faut bien montrer qu'il y a deux situations différentes. Puis la troisième situation, c'est quand l'émigré peut transplanter sa famille. C'est le troisième cas. Et je crois que chaque fois, c'est différent. Et chaque fois, ça demande un jugement différent. On ne peut pas porter le même jugement sur tous. Donc, il ne faut pas noyer le poisson, c'est pas en disant émigré. Ce que c'est quand on a passé la frontière et qu'on ne peut plus renouveler son visa et qu'on n'a plus de visa, on est un immigré. C'est évident. On a perdu ses droits politiques à l'égard de son pays. Donc on est un immigré. Tant qu'on n'a pas récupéré une nationalité autre. Donc, l'immigré comme tel, et c'est très juste de dire, il n'a pas le droit de vote. Normalement, sauf au bout d'un certain nombre d'années, qu'il soit légitimement ou illégitimement, c'est une question de temps. Donc, quatrième distinction, l'émigré qui est suffisamment enraciné dans un pays pour avoir, par exemple, une double nationalité. Alors, à ce moment-là, il n'est plus émigré. Par définition, il n'est plus émigré. Il a changé de nationalité. Il a pris une nationalité. Il s'est nationalisé dans un autre pays. Donc il n'est plus émigré. Donc l'émigré au sens fort, c'est celui qui n'a pas le droit politique. sens fort. Celui qui n'a pas le droit de vote. Donc celui qui est parachuté dans un pays parce que pour lui, c'est une nécessité vitale. Il n'arrive pas à trouver de travail dans son pays. Il va dans un autre pays pour trouver du travail. Et pour nourrir sa niche, pour nourrir sa famille. Par tous les moyens, il cherche à nourrir sa famille. Donc peu lui importe de partir, il part pour avoir ça. Donc, vous voyez que c'est déjà quelque chose de très particulier. Ça regarde tout un équilibre économique. Parce que je crois que permettre d'avoir une politique très vaste pour les immigrés, c'est peut-être un moindre mal. Mais le mal demeure. Il faut considérer pour guérir de ce mal, parce que c'est sûrement mal, vous voyez bien dans quel sens, pour des hommes de venir quitter leur famille, leur épouse, leurs enfants, et gagner sa vie dans un pays étranger. C'est un mal. Donc, ce mal, on doit tout faire, par la mesure où on le peut, pour le supprimer. Puisqu'on est complice de ce mal, puisqu'on le reçoit. Hein, vous êtes complice de ce mal, vous le recevez. Donc, il faut essayer de supprimer ce mal. Dans la mesure où on peut, ordinairement, c'est très très difficile. Parce qu'on sait très bien qu'au point de vue économique, il s'agit d'un point de vue économique, l'économie aujourd'hui, qu'est-ce qui la dirige? Quand j'étais en Suisse et que je fréquentais les gros banquiers balois, je leur demandais qui dirigeait l'économie de Bâle ou de Zurich. Ils disaient, c'est la banque. Quand vous voyez ceux qui sont à la tête d'un pays, ils disent que c'est eux. Quand vous voyez des grands savants avec des applications politiques, ils disent que des applications techniques, ils disent c'est eux. C'est ça qui est plus difficile dans notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'on tombe dans l'anonymat de la responsabilité. Je crois que c'est ça la chose la plus catastrophique. C'est que, au fond, on est en face d'une responsabilité qui est partagée. Il est bien évident que l'équilibre économique dépend de la banque. La dévaluation, ça dépend de qui? Ça dépend de la banque. Ça dépend en même temps de l'économie d'un pays. Est-ce que c'est les chefs d'État qui sont les uniques responsables? Ils peuvent retarder après les élections, pas avant. Ça, ils peuvent faire ça. Donc ils donnent des coups de frein. En suppliant, pas tout de suite, attendez. Parce que ça ne sera pas bon pour l'élection. Donc, maintenant le prestige. C'est normal, ça. Celui qui est au pouvoir, aussi bien de droite que de gauche, ferait exactement la même chose. Hein. Donc, on sait très bien que ça, c'est maintenir le prestige quand on peut le maintenir, et le maintenir le plus qu'on peut, même si ça ruine l'État. Alors c'est là où savoir si c'est juste. Parce qu'on peut très bien arriver à ruiner un pays comme ça, pour le prestige d'un parti politique. Alors à ce moment-là, ça devient malhonnête. C'est extrêmement difficile à toutes ces questions d'aujourd'hui, parce que l'économie a pris une telle importance au plan politique. Vous voyez, c'est là où Marx avait un peu prophétisé, quand il montrait l'identité entre l'économie et le point de vue politique. Alors nous distinguons, les marxistes ne distinguent plus. Et nous distinguons, parce que le point de vue économique et le point de vue politique n'est pas la même chose. Et ramener le point de vue politique à le point de vue économique, c'est une très grave erreur. C'est l'erreur marxiste. Et c'est l'erreur du positivisme. C'est là où Lénine a fait le lien entre le positivisme et le marxisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien de droite et de gauche, on tombe. là la même erreur. On identifie le politique et l'économique. Or, identifier l'économique et le politique, c'est une erreur très très fondamentale. Puisque c'est empêcher de regarder le bien de l'homme, le bien humain, en mettant une note morale. Et en ne regardant que l'efficacité et la productivité. Comme bien de l'homme. Le bien de l'homme, ce n'est pas uniquement la richesse matérielle. Le bien de l'homme, c'est aussi la culture, c'est aussi le point de vue moral. L'économie recherchée pour elle-même, c'est la mort de l'économie. Il faut dire ça de temps en temps devant des économistes, qui sont de purs économistes, et leur montrer que l'économie recherchée pour elle-même, sans voir que l'économie est pour le bien de l'homme et que la communauté politique est plus que l'économie. C'est oublier donc, c'est faire que cette économie, au bout d'un certain temps, va mourir. Elle va asphyxier l'homme. Or, si on asphyxie l'homme, l'économie disparaît. Donc il faut bien maintenir ça. Alors, vous comprenez, indépendamment de ce problème très fondamental que représente le point de vue de l'émigration, qui provient d'un malaise, d'un déséquilibre qui s'est fait entre les différents pays, les pays plus riches, les pays moins riches, et ainsi de suite. En face de ça, l'émigré comme tel. C'est très vrai que par rapport à la nation, il est un peu comme l'esclave. Mais voyez, alors est-il l'esclave légitime ou l'esclave non légitime? Eh bien, l'émigré est toujours l'esclave illégitime. Puisque s'il est émigré, ce n'est pas par la force des armes, mais c'est par la nécessité d'élever sa famille. Et cette nécessité d'élever la famille le met dans un état qui n'est pas normal. Il n'est pas normal pour un homme de gagner sa vie en dehors de son pays sans avoir de droit politique. C'est pas normal. On le met dans une situation qui est anormale. C'est pour ça que je dis que c'est un mal. On le met dans une situation qui est celui qui est primé. Il est primé puisqu'il ne peut pas exercer son droit politique, son droit humain. Il est là uniquement pour gagner sa vie. S'il est là uniquement pour gagner sa vie est la vie de sa famille, c'est anormal. Ça, je crois qu'il faut quand même très nettement voir cela. Donc, vous voyez, c'est le cas de l'esclave par violence, que cette violence vienne de la force armée, ou que cette violence vienne de la force économique. Il est obligé de quitter son pays pour gagner la nourriture qu'il faut. Ça revient au même. Parce que des deux côtés, c'est une violence. L'émigré est violenté. Alors on dira, ah, mais vous êtes libre d'être émigré. Oh, pas du tout. Et c'est comme celui, vous savez, ce fameux exemple du volontaire indirect de saint Thomas. Celui qui est en mer, il y a une tempête, il est obligé pour sauver son petit bateau, de jeter tout ce qu'il a pris. Donc, il le fait volontairement, de jeter à la mer tout ce qu'il a. Il ne le fait pas volontairement, directement, volontaire indirect. Il le fait parce qu'il est violenté par la tempête. La tempête peut nous violenter, peut nous obliger de faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. Il y a la crise économique qui violente des quantités d'hommes et qui sont obligés de quitter leur pays pour gagner leur compte et gagner la nourriture pour leur famille. Donc, pas de violence. Ils sont violentés. Ce sont donc des émigrés analogues, voyez, analogues à d'esclaves, qui étaient esclaves à cause de la violence des armées. C'est un peu plus tout, tout simplement. C'est une violence un peu plus douce. Mais c'est quand même un état de violence. Du reste, quand on parle aux émigrés, on s'aperçoit bien, ils le disent tous, hein. Quand ils retournent une fois par an dans leur pays, ils sentent passer. Quand ils font venir leur famille, alors c'est tout à fait différent. Parce qu'ils peuvent retrouver une vie familiale. Non, c'est l'aspect premier. Quand on est coupé de la vie familiale et coupé de la vie politique, on est réduit à être celui qui gagne sa vie dans la solitude. Évidemment, à côté des autres, mais dans un état de violence. S'ils peuvent faire venir leur famille, oui, et c'est là où doit porter l'aspect humain à l'égard des immigrés. C'est leur permettre de venir avec leur famille. Pour que cet état de violence ne soit plus un état de violence. S'ils préfèrent que leur famille reste, c'est autre chose. Mais il faut leur donner la possibilité de le faire. Bon, ça je crois que c'est assez net. Il faut reconnaître que c'est une injustice. Et qu'on coopère à une injustice. On voit peut-être pas comment on peut solutionner tout de suite le problème. Ça, c'est une autre histoire. C'est sûrement par une politique de longue haleine. Retrouver un équilibre économique entre les différents pays. C'est pas commun du tout. Parce que comment voulez-vous demander à ceux qui sont nantis de payer pour ceux qui ne le sont pas. La charité, elle existe individuellement et personnellement, mais elle n'existe pas au niveau politique. Vous ne pouvez pas demander à un État, au point de vue de la charité, de faire qu'un État qui est très pauvre puisse arriver à se débrouiller par lui-même. Elle veut me dire, est-ce que c'est de la justice? C'est un cas très délicat. Est-ce que c'est de la justice? Quand vous êtes à côté d'un pays qui n'arrive pas à se dépêtrer, est-ce que c'est une justice pour vous de faire tout ce que vous pouvez pour qu'il puisse repartir? Vis-à-vis de l'individu, c'est net. Et vis-à-vis de l'État, vis-à-vis d'une nation. Ce sont des problèmes qui sont très difficiles. C'est la question du droit international des pays. Mais c'est très difficile parce que d'abord ça évolue, ces choses-là. Et puis, c'est pas commode. Je me souviens, parmi les pères dominicains qui enseignaient le droit international, le père Delos, c'était sitôt la fin de la guerre, des hostilités. La guerre continuait, mais les hostilités, il y avait l'armistice qui avait été signé. J'étais arrivé à Toulouse, je retrouvais le père Delos là, qui était dans le droit international. Et alors il me voyait profitant de la bibliothèque des Dominicains de Toulouse, où il y avait une très belle bibliothèque. Je me suis replongé tout de suite hein, dans la théologie. Alors je vois le père Delos qui me dit, ah, vous avez de la chance. Votre objet demeure, tandis que le mien, il a disparu. Sitôt l'armistice de droit international, vous voyez qu'est-ce qu'il pouvait être, il ne savait pas ce qui serait le lendemain. C'est vrai, c'est fluent, c'est difficile. Tandis que la théologie demeure. Même si il y a une défaite, la théologie demeure. Parce qu'elle n'est pas au niveau des États, elle est au niveau des individus et des croyants. Tandis que le droit international, il est... Donc, je crois qu'on peut dire que souvent, l'émigré représente un mal, parce que c'est une violence qu'on doit à tout prix et de toute manière essayer de supprimer. Je crois qu'on doit le dire. On ne doit pas l'exploiter. C'est trop facile. Sous prétexte de miséricorde, on exploite les migrants. Et on peut très facilement l'exploiter, je vous dis. Le cas du Texas, c'est très net. On le met dans un état tel qu'on l'exploite. Alors à ce moment-là, il vous sert tout à fait d'esclave. Résolu avec le problème des émigrés. Parce que ce problème des émigrés mange.